écoutez Radio Campus Lille, il est 6h.
Sport de compétition ou sport de rue, la boxe trouve ses origines dans l'Antiquité, en Grèce lors des Jeux Olympiques, puis à Rome dans les arènes. Appelée autrefois pugila, cette discipline a été peu à peu délaissée au fil des siècles, reléguée à un sport de rue réservé aux classes populaires. Il faudra attendre le XVIIIe siècle, en Angleterre, pour que la boxe se dote de véritables règles et devienne une institution. C'est dans ce contexte riche d'histoire et de diversité que la boxe continue de faire vibrer les rings à travers le monde. Plus qu'un simple sport, elle incarne des valeurs d'éducation, de discipline et de cohésion sociale. À Roubaix, depuis 1985, le boxing club roubaisien incarne pleinement cette dimension humaine et engagée. Karim Djemal, entraîneur depuis des années, a accepté de discuter avec nous à propos du club et de ses valeurs. Quel type de boxe est-ce que vous enseignez? Parce que je crois qu'il y a plusieurs types de boxe, wow. Boxe anglaise, boxe thaï.
Nous, c'est de la boxe anglaise. Et dans la boxe anglaise, il y a deux sortes de boxe. Il y a la boxe éducative ASSO, qui est spécialisée sur uniquement la touche, ne pas faire mal à son camarade, à son partenaire plutôt. Et après, tu as la boxe olympique amateur, où là, il faut essayer de marquer le plus de touches valides, toujours deux points, et que ce soit fort, il n'y a pas de restriction au niveau de la puissance.
Donc le boxing club roubaisien est l'un des clubs qui a formé et continue de former encore beaucoup de champions, si je ne m'abuse.
On a été, pendant quelques années, vraiment sur le haut du panier, quoi. On était vraiment bien plat classé, avec souvent des titres de champion de France, plusieurs titres à la fois, quoi. Ce qui est bien sur Roubaix, c'est un terroir fertile. Pas que pour nous, il y a d'autres clubs de Roubaix aussi qui sont des champions. On est à un terroir quand même assez conséquent. Donc il y a beaucoup de
potentiel.
Il y a vraiment du très très haut potentiel. C'est simplement du très très haut. Je suis pas magicien. On a eu la chance d'être là. J'aurais été entraîneur dans l'Avesnois, et je dis pas que j'aurais eu ce palmarès-là d'entraîneur, quoi.
Selon vous, pourquoi Roubaix serait un territoire plus fertile que d'autres? Pourquoi il y aurait plus de potentiel à Roubaix qu'ailleurs?
Je veux dire, parce que c'est une ville jeune. Il y a beaucoup de jeunesse. Parce que je ne veux pas rentrer dans les cases qui veulent nous mettre stéréotypés, enfants de quartier difficile. Non, non, c'est faux. Et ça, je ne veux pas. Moi, tous mes gamins, c'est des enfants qui sont scolarisés. Une bonne scolarité. Parce que pour moi, je juge qu'un enfant qui a abandonné la scolarité, qui a lâché la scolarité assez tôt, c'est qu'il va lâcher, il y aura un peu la culture de l'échec.
Vous voyez? Même dans la boxe, du coup.
Bah oui, parce que quelqu'un qui n'est pas bien cadré, quand il décide d'arrêter, il arrête. Par contre, quand il est suivi, quand il y a un peu les prends derrière, quand il y a un peu... Il y a l'école, il faut s'accrocher, donc il y a cette culture d'envie de s'accrocher à quelque chose, il va accepter plus facilement l'échec. Parce que l'échec, comme je dis toujours, on perd pas, on apprend. Donc tandis qu'un gamin qui a cette culture de l'échec, tu vois, qui abandonne assez facilement, c'est difficile. La boxe, c'est qu'une flèche. C'est une flèche parmi tant d'autres.
Est-ce que vous diriez que c'est plutôt un outil?
C'est un outil parmi tant d'autres. Voilà, c'est pour ça que c'est parmi, comme le permis, c'est un outil, comme les diplômes, c'est un outil, parmi tant d'autres. C'est pas l'objectif principal.
Nous sommes toujours en train de parler du boxing club roubaisien qui forme des jeunes à Roubaix aux techniques de la boxe depuis 1985. Un club qui forme des champions, mais qui accompagne également ses boxeurs sur le ring comme dans la vie. Karim Djemal, entraîneur de la structure, nous conte l'histoire d'une des adhérentes du club ayant pris confiance en elle grâce à la boxe. Donc, quelle est l'expérience avec un jeune ou plusieurs jeunes qui vous a le plus marqué?
Ce qui m'a marqué le plus, ça ne va pas être un compétiteur, ça ne va pas être un garçon, mais ça va être une fille qui m'a vraiment marqué bien. Il y a quoi? Il y a encore 4 ans, 4-5 ans. Il y a une maman qui me ramène une fille qui voulait même pas rentrer dans la salle. Elle n'osait même pas rentrer. Elle s'accroche avec une copine à elle et elles se sont agressées, elles se sont frappées. Elle est revenue pleine de griffes. Et elle était la bouc émissaire du groupe. À un moment, elle était débitée. Elle cherchait que une alternative pour essayer de la... Donc elle lui dit, je vais te ramener, tu vas faire la boxe. Elle n'osait même pas rentrer à la salle, la gamine. Elle n'osait pas rentrer à la salle. Donc, on a fait un travail sur elle-même. On l'a aéré tout doucement. Le coach qui s'occupait de cette tranche d'âge et a été tout doucement...
Elle avait quel âge ?
Elle avait 14, 15 ans. Et la maman, elle l'a poussé avec le coach qui essayait de la ramener. Une fois, deux petits entraînements, deux fois, trois fois, tout doucement, tac, tac, tac. Elle a commencé un peu à travailler, à se surpasser. Elle a trouvé une seconde famille à la salle, à ses copains, à ses copines. Dans la salle, elle était là, tac, tac, tac. Au niveau scolaire, elle a recommencé à avoir confiance en elle. Elle a un peu tapé un peu, parce que c'était assez moyen. Donc, au niveau scolaire, ses notes sont remontées. T'avais deux coachs qui sont universitaires. Donc, qui font un peu d'aide aux devoirs pour les enfants qui ont un peu de difficultés, qui les aident un peu, tu vois. Donc, ils se donnaient rendez-vous le samedi, une petite heure ou deux, le samedi après-midi à la médiathèque. Tu vois, ils ont commencé à l'accompagner un petit peu, tac, 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 tac. Et plus la boxe, elle s'est épanouie, et elle a eu son bac avec mention, elle est allée à la fac. Et après, j'avais besoin, moi, d'un service civique. Donc, on l'a pris derrière. Bon, elle est rentrée et là, elle coach avec nous. Ce n'est pas une compétitrice, c'est simplement une adhérente qu'au départ, qui n'osait pas rentrer à la salle et maintenant, qui était jusqu'à l'année dernière, qui était service civique et qui donne un petit coup de main encore actuellement au club. Pour moi, c'est mieux qu'une championne du monde. Au moins, on a donné confiance à une jeune fille qui était... qui dit on ne serait pas croisés, on ne sait pas ce qu'elle serait devenue, quoi. Mais au moins, la gamine, elle est épanouie. Voilà.
Près de l'avenue du Parc des Sports, à Roubaix, les adhérents du club s'entraînent dans la salle Léon-François. Ils sont de tous niveaux, de débutants jusqu'à champions de France. Des coups sont échangés, mais tout en restant dans le respect de l'adversaire. Nous avons pu interroger l'un de ces boxeurs sur son expérience dans le milieu de la boxe.
Moi, c'est Soeb Bouafia, j'ai 27 ans. Je suis de la ville de M et je m'entraîne au boxing club ABC Roubaix. Je suis à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, donc l'équipe de France. Je suis numéro 1 français actuel, double champion de France. J'ai fait les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et là, je suis en route pour aller faire les Jeux de Los Angeles en 2028.
Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe ?
Moi, je boxe depuis... je ne saurais pas dire exactement. Mais en tout cas, je me suis mis dans ce club-là sérieusement à partir de mes 17 ans. Et en fait, moi, Daoud Asso, qui était un boxeur de la ville de M, avait fait vice-champion olympique en 2008 à Pékin et ça avait créé un petit engouement et c'est à partir de là que j'ai commencé à me tenter un peu dans la boxe et je m'y suis mis sérieusement à 17 ans.
Dans un premier temps, pourquoi tu as commencé la boxe ? Pourquoi tu t'es dit « je vais faire de la boxe dans ma vie » ?
D'où je viens, dans les milieux populaires déjà, il n'y a pas 26 000 issues et la boxe en soi, c'est un sport qui est en tant qu'homme met de la valeur, qui montre, qui représente l'homme fort, etc. Moi, je suis issu d'une fratrie de 6 frères, donc on voulait savoir un peu qui était le plus fort. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai eu Daoud Asso qui a performé au niveau mondial avec les Jeux Olympiques. Et donc ça a créé un engouement dans ma ville et on a tous commencé, quoi.
Est-ce que tu dirais que ça a de réels bienfaits dans ta vie, la boxe ?
Bien sûr. C'est-à-dire le sport en soi... Ça a un énorme bienfait, ça permet de physiquement de se sentir bien, de se dépenser quand on en a besoin, de pouvoir calmer ses ardeurs, on va dire, quand on a un peu de tension, etc., de se défouler, c'est un super défouloir. Et la boxe permet d'être plus calme, se contrôler.
En quel sens ?
Quand il y a de l'énervement et quand il y a des situations où on pourrait être agressif si on n'est pas sportif, boxeur. Bon, on sait garder son tempérament, on sait garder son calme parce qu'on n'a pas besoin de se tester. On sait que, en général, les gens qui se battent dans la rue, etc., c'est toujours pour savoir qui est le plus fort, c'est comme ça, c'est un peu la loi de la jungle. Et le boxeur sait de quoi il est capable et il n'a pas besoin de montrer ça dehors. Donc en général, les gens que tu vois dans les salles, ce n'est pas des gens que tu vois se battre ou être agressif comme je le suis. On est très calme, on est très... très doux, même si c'est un peu à l'opposé de ce qu'on fait. La discipline, le respect. En fait, le sport, la boxe, c'est un sport très dur. Et donc, pour pouvoir progresser dans ce sport, il faut savoir se faire mal. Et quand tu rentres avec... quand tu rencontres quelqu'un, un opposant, tu sais que lui, il a vécu les mêmes choses que toi, il s'est entraîné comme toi, donc il a été dans le dur, etc. Donc il y a un respect d'abord pour ça. Quelqu'un qui monte dans le ring face à une autre personne, il y a un énorme respect qui est entre les deux combattants. En général, tous les combattants se donnent des coups et c'est fou l'image, hein, juste à la fin. Ils se serrent la main, ils se font un câlin, ils limitent sans à deux doigts, ils se câlinent. Et donc ça montre en fait le truc, c'est que ça reste du sport. Et qu'on a, on a ce respect, on a cette discipline, parce que pour progresser, il faut être là, il faut être sérieux. On a cette abnégation et c'est voilà quoi.
Loin de l'image réductrice d'un simple sport de brut, la boxe incarne des valeurs profondes de discipline, de respect et de rigueur. Derrière chaque coup porté se cachent des heures d'entraînement, une maîtrise de soi exemplaire et un profond respect de l'adversaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Boxing Club Roubaisien sur sa page Facebook Association du Boxing Club Roubaisien ou sur sa page Instagram abc-boxing-rbx.
Un reportage de Aurore Henny pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ihr hört Radio Campus.
106.6, nicht kommerzielles Radio.
Freier Sender.
Ohne Anzeigen, Werbung. Ohne Werbung.
Richtig geil.
Yeah.
Cool.
De miel collé sur la teinte de bois, ou une mouche aux abois prisonnière de fiel, ne regarde que moi, ne regarde que moi. Comme tombée du ciel, une goutte de miel vient frapper de son dard à la lueur des phares, l'aveugle artificiel qui ne peut être que moi, qui ne peut être que moi. De son fouet, l'être pâle, fatigué, qui cherchait son sommeil, rêvait-il donc de moi? Comme tombée du ciel, une goutte de miel semble être une fissure, et le beau cache l'impur, tout n'est que pâle chapelle. Que reste-t-il de moi? Que reste-t-il de moi? Aucun lieu ne sont que poudre aux yeux. Rien ne sait si demain, rien ne sait si demain sera pour l'être humain. Mon chien l'arbre aura peut-être plus que moi, peut-être plus que moi, peut-être plus que moi. Hey, 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 hey. bienvenue dans la flamme chancelante, chère femme galante, aperçue dans la rue. Vous n'êtes pas venue dans la flamme chancelante, chère femme galante, aperçue dans la rue. Vous n'êtes pas venue dans la flamme chancelante, chère femme galante, aperçue dans la rue. Vous n'êtes pas venue dans la flamme chancelante, chère femme galante, aperçue dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue. We'll be right back.
Dans le cadre de son festival de l'écoute et de la radio, le collectif Écoute que coûte invite du lundi 21 au vendredi 25 juillet prochain à Arras l'association Urbanisation. Urbanisation, c'est une association belge qui développe des outils sonores participatifs, notamment des balades sonores. On en discute à distance avec l'une des deux co-coordinatrices.
Ben moi, je m'appelle Céline Weintraub. Je suis une des deux fondatrices de l'ASBL Urbanisation. Oui, en Belgique, on dit ASBL, donc c'est Association sans but lucratif, ASSO, pour le français, je pense. Voilà, avec Émilie Bergilet, qui est ma collègue amie et avec qui on a fondé Urbanisation en 2007 déjà.
Alors justement, comment ça a commencé ce projet à la base ?
Ah voilà, alors la base du projet Urbanisation, c'est qu'on était toutes les deux des étudiantes en animation socioculturelle et éducation permanente, et on devait faire un mémoire de fin d'études. Et on avait toutes les deux choisi le son, mais on n'était pas que deux, au début on était sept. Et Émilie, elle avait créé une balade sonore dans un quartier de Bruxelles, à Flagey plus précisément, et à l'époque... Le quartier était vraiment en travaux et en transition. C'était un quartier assez populaire qui devenait un peu plus chic. Et l'idée de créer cette balade sonore, c'était de préserver la mémoire d'un quartier qui est en train de se transformer et de voir l'impact que ça peut avoir aussi, de mettre en évidence certains lieux qui sont importants pour les gens qui y vivent. Et après ce mémoire, en fait, on a décidé de se réunir en collectif pour continuer le travail de balade sonore dans ce quartier-là et puis dans d'autres quartiers.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste une balade sonore exactement ?
Oui. Il y a deux étapes à la balade sonore. Il y a d'abord l'étape de réalisation et de création et puis la diffusion de la balade. Et donc, nous, quand on réalise une balade sonore, on va toujours travailler avec un public, donc avec des personnes, avec des habitants qui partagent une réalité commune. Ces dernières années, on a beaucoup travaillé avec des publics d'apprenants. En français langue étrangère, donc des personnes issues d'immigration qui arrivent en Belgique depuis pas très longtemps. Et puis, pendant la réalisation, on va ensemble réfléchir à un quartier, quels sont les lieux qu'on aime bien, les lieux qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, puis on va se balader ensemble et on va découvrir des lieux, on va enregistrer tout ça. Et puis, après, il y a le travail de réalisation sonore. Et puis on présente au public. Et donc, qu'est-ce que c'est une balade sonore pour le public ? Eh bien, on invite le public à se rendre sur le point de départ d'une balade sonore. Il reçoit des casques pour écouter des témoignages et un plan. Et puis, on va guider le public d'un endroit à l'autre. On va se balader dans un quartier à travers le vécu, les yeux, les oreilles d'un groupe de personnes qui fréquentent ce quartier. Et donc, on va se balader, on va entendre dans le casque leurs histoires de vie et puis les endroits aussi qu'ils et elles ont découvert dans ce quartier. Pourquoi c'est important pour eux, pourquoi ils n'aiment pas cet endroit-là précisément. Et donc, on va vraiment faire, souvent c'est 5-6 arrêts d'écoute, 6 pistes sonores. Et à la fin, on se réunit entre le public, les personnes qui ont témoigné dans la balade sonore et nous d'Urbanisation, et on va avoir vraiment un échange, un retour après à propos de la balade sonore, de la thématique qui est abordée, de ce qui a touché les gens, interpellé les personnes. Voilà.
La ville de Namur, c'est charmant, c'est marchand.
Un lieu de vagabondage, d'exploration, d'aventure.
La ville de Namur, obscure par endroits.
Les cours d'eau, la Sambre, la Meuse, au moins ça bouge, ça vit.
La ville de Namur, c'est celle où je suis née et c'est celle où je vis.
La ville de Namur, c'est celle qui m'a acquis.
Je suis fière.
La ville, c'est circuler, il n'y a rien à voir.
Trop de bagnoles.
Les rencontres.
L'euphorie.
De la poésie.
Sortir de son cocon.
La rue, c'est l'aventure.
Des pavés.
Des trottoirs trop petits.
La citadelle.
La rue, ce n'est pas fait pour les mauvaises herbes.
Qu'est-ce que ce dispositif technique aussi permet à la fois du point de vue des auditeurs auditrices, hein, des gens qui participent à la balade et aussi des gens qui ont fabriqué la balade sonore.
Pour les personnes qui témoignent dans la balade sonore, Je dirais que c'est différent selon les publics, mais quand même, peut-être qu'il y a, ce qu'il y a de commun, c'est une espèce de reconnaissance, d'être entendu, d'être écouté et puis d'être entendu, que d'autres personnes se rendent compte de leur vie, de leur vécu, de la manière dont ils, ils occupent l'espace public, de la manière dont ils fréquentent certains lieux ou ont besoin de certains lieux que nous, on n'a peut-être pas besoin. Il y a ça, il y a la rencontre entre ces deux publics-là qui est quand même super importante, qu'elle ait lieu ou pas physiquement, parce que je dis qu'il y a une rencontre entre les personnes qui témoignent et le public, mais parfois on rediffuse les balades sonores, les vieilles balades sonores qu'on a réalisées il y a 5 ans par exemple, et les personnes qui ont témoigné ne reviennent plus. Mais pour nous, la rencontre, elle se fait quand même à travers le son. En fait, le public... qui vient découvrir une balade sonore, ben, il rencontre aussi certaines, ces personnes-là à travers leur voix, à travers le choix des lieux de la balade. Et donc, je dirais que pour le public, ça permet à la fois de découvrir un quartier ou de redécouvrir sa ville différemment, parce qu'il y a aussi toute la trajectoire qui est importante, donc quelle rue on utilise pour aller d'un endroit à l'autre, et toute cette trajectoire, elle est choisie par les personnes qui réalisent la balade avec nous. Et donc, parfois, on redécouvre des belles petites rues ou on découvre des nouveaux endroits qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est chouette. Ou alors, si on est vraiment touriste, on découvre une ville à travers les gens qui y vivent. Et donc, c'est vraiment le côté humain, je dirais. De se rencontrer, d'entendre, de découvrir. Et puis, au final... Allez, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est quand même l'idée de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'autre parce qu'on entend ce qu'il a vécu et puis d'avoir un meilleur vivre ensemble, entre guillemets, dans une ville où il y a beaucoup de personnes qui sont différentes, qui ont des parcours de vie différents, qui ont des origines, des âges, des couleurs de peau, voilà, des genres. C'est un peu ça l'objectif des balades sonores, quoi. Avoir plus de, une meilleure cohésion sociale, plus de rencontres, plus de tolérance, quoi, entre les gens.
Ruelle.
Sauvage.
Vous écoutez.
Passage ouvert, ruelle sauvage. Balade sonore.
J'ai pas envie d'avoir toujours peur dans cette société. Moi, j'ai envie d'avoir de la joie, d'être heureuse.
Quand est-ce que la ville va redevenir un lieu de vie avec des quartiers, avec des personnes qui se croisent et ça se passe à Saint-Servais, ça se passe à Baumel, ça se passe parfois à Jambes, etc. Et plus dans le centre, en fait, de Namur. Dommage.
On est toujours à distance avec Céline Weintraub d'Urbanisation. Cette association belge participera au Festival de l'écoute et de la radio, organisé par le collectif Écoute que coûte. Alors ça sera pour Urbanisation du 21 au 25 juillet prochain à Arras, avec le mardi 22 juillet de 18h à 20h une séance d'écoute collective d'extraits de balades sonores. Le mercredi 23 juillet en matinée, un atelier d'initiation à la balade sonore. Et puis, donc, le mercredi 23 juillet à 18h, une balade sonore dans les rues d'Arras autour de la question des femmes dans l'espace public.
La balade sonore s'appelle Passage ouvert, ruelle sauvage. C'est une balade sonore qu'on a réalisée en 2024 avec un groupe de femmes dans une ville située en Wallonie qui s'appelle Namur. Et donc, cette balade sonore-là, elle parle des femmes dans l'espace public, dans les rues de Namur. Ça traverse quand même beaucoup de sujets différents parce que, évidemment, c'est quoi être une femme dans l'espace public? Comment est-ce qu'on perçoit l'espace public quand on est une femme? Mais évidemment, les 6 femmes qui ont témoigné dans cette balade sonore-là, elles sont toutes différentes et elles ont toutes aussi des particularités qui font que, elles vont témoigner aussi de ça, de leur usage de la ville. Donc, par exemple, ce qui nous relie, il y a des thématiques qui nous relient, qui sont un peu connues, mais en fait, par exemple, le harcèlement de rue. On s'est rendu compte que toutes les femmes autour de la table, elles s'étaient fait déjà agressés, peu importe leur âge physique, apparence, voilà. On nous a beaucoup ramenés à notre corps dans la ville. Et puis, il y a vraiment l'aspect chacune d'entre elles perçoit la ville. Qu'est-ce qui est important pour elles? C'est quoi ses besoins? Il y en a qui parlent vraiment de l'importance d'avoir des espaces verts. Pourquoi c'est important d'avoir des espaces verts dans une ville? Puis on a un peu rêvé la ville aussi. Serait quoi une ville plus inclusive? Qu'est-ce qui ferait qu'on se sente plus à l'aise dans une ville? Il y a le côté mort un peu parfois des villes où il y a beaucoup de commerce. Et en fait, une fois que le soir arrive, ben, il n'y a plus rien. Donc ça amène de l'insécurité. Puis dans le groupe, il y a une personne porteuse de handicap. Et donc, là, c'est quand même carrément une autre manière aussi de vivre la ville, d'expérimenter la ville quand on est en chaise roulante. Et ça, on s'en est rendu compte aussi en réalisant cette balade sonore-là. Et ce qu'elle a de spécifique aussi, cette balade, c'est qu'on a travaillé en collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Marine Bernard, qui est aussi de Namur, et qui a réinterprété chaque piste sonore par une élue. Et les illustrations se trouvent dans les rues de Namur, imprimées sur du dur, quoi, on va dire, pour qu'elles puissent rester vraiment de manière pérenne. Et c'est important pour nous de visibiliser ces vécus dans la ville, et puis de rendre accessible et visible la balade sonore et les témoignages aux passants, en fait. Rendre visible la balade sonore dans les rues de Namur. Voilà, et en fait, cette balade sonore-là, l'année passée, on l'a adaptée déjà à une ville de France, à Montpellier, parce qu'avec des partenaires français, on a aussi organisé un festival qui s'appelait Ça se raconte. C'était le premier festival qu'on a imaginé ensemble autour des histoires de vie. Et on avait réadapté cette balade sonore-là dans les villes, dans les rues de Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on se rend compte que peu importe la ville, les vécus des femmes faisaient vachement écho, en tout cas là-bas à Montpellier, on verra à Arras. Hein. Voilà, il y a des réalités qui ne changent pas, peu importe la ville dans laquelle on se trouve.
Si, en tant que femme, je vous dis « à nous la rue », vous me répondez quoi? Pouvoir espérer un jour pouvoir s'y promener en toute sécurité sans devoir regarder derrière soi?
Aujourd'hui, la rue n'est plus aux femmes, ça c'est clair et net. Bah, la rue à tout le monde, quoi. Et même en tant qu'homme, la rue devrait nous appartenir, quoi. Genre, c'est à nous. On devrait être protégés dedans.
Je crois que c'est pas la rue le problème. Le problème, c'est l'éducation des gens.
La rue est à tout le monde, y compris aux femmes. Et on peut se sentir puissante et à l'aise au milieu de tous les humains de la rue.
Peut-être qu'il devrait y avoir plus de femmes dehors et moins d'hommes, je sais pas. C'est vrai qu'on est plus à la maison, que les hommes, ils sont plus dehors.
On écoutait un entretien avec Céline Weintraub d'Urbanisation, entretien ponctué d'extraits de différentes balades sonores produites par cet asso. Retrouvez-les à Arras la semaine du lundi 21 au vendredi 25 juillet dans le cadre de la semaine Chemin de Traverse du Festival de l'écoute et de la radio. Plus d'infos et le programme complet du festival sur le site de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, franf.fr. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. No, and what I'm looking for.
can't stand no more.
Jetait plus nos papiers dans les rues. Le petit balayeur ne travaillerait plus. Au bord de ton veston, les lèvres endormies, il a une tête qui fume son clope. Et l'autre main qui nettoie la capitale. Posé sur ton talon, au médeau caniveau, mais senteur d'aurore sur la terre qui dort. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, ou peut-être 100 ans. Dans un jour, une fois, plus tard, mais qu'importe, on se retrouvera dans la même maison. Papiers dans les rues, le petit balayeur met sa belle tenue. Sur la blanche saison, des feuilles étourdies, l'œil d'un matin gris dans les goûts qui clapotent. Les regrets déversés de la capitale, les cœurs dans les pochons. Mes lettres froissées, mes amours d'aurore, poussent les pigeons morts. J'ai 100 ans dans 1000 ans, ou peut-être entre-temps, entre tous les passants, vers la même porte, ton blason, c'est toujours la gueule que tu portes. C'est pourquoi jeter les papiers dans les rues. Ce matin, le printemps, il avait disparu. Là, dans un de ses ruisseaux, il a pris son bateau. Et tes balais, les nouvelles ordures. Salut tous les copains de la balayure.
Secret Garden and the Dusty Man. C'est un groupe de blues du Valenciennois qui a sorti le 20 juin dernier son nouvel EP Keep Looking Up. Une belle occasion de fêter leurs 10 ans de carrière. Sarah, alias Secret Garden, et Emric, the Dusty Man, nous parlent de ce disque et de l'évolution de leur duo.
Alors on s'est connus donc il y a 10 ans déjà maintenant, quand on était dans le même établissement parce qu'on est prof aussi à côté tous les deux. Et on s'est rendu compte qu'on faisait de la musique tous les deux. Donc Emric, il m'a proposé de passer chez lui pour improviser sur du blues. Donc j'ai travaillé un peu les morceaux en amont, je me suis pointée chez lui. On a commencé à improviser, à taper un peu le bœuf. Et puis là, il s'est dit « Ok, ben en fait, finalement, on va pas juste improviser comme ça tous les deux. On va monter un vrai projet parce que ce serait dommage de rater une occasion pareille. » Et puis voilà, ça fait 10 ans.
Bon, j'avoue que j'avais pas que la musique en tête quand je l'ai invité à la maison.
Une rencontre donc pas uniquement musicale, mais côté musique, elle s'est faite autour du blues et pas n'importe quel blues.
Un groupe qui a sa propre patte, celle du blues and roots. Alors, c'est vrai que le blues, il a ses racines, il a son origine, mais vous, c'est un blues un petit peu différent, expliquez-nous.
Ben justement, c'est le blues qui est plus proche des racines. C'est le blues qui arrive plutôt du delta, donc le delta du Mississippi, pas loin de Memphis, un petit peu plus au sud de Memphis. C'est pour ça qu'on a appelé ça à la base le blues and roots. Maintenant, on s'est rendu compte que ce terme perdait un peu les gens. Donc, quand on parle de delta blues, parfois ça parle un peu plus. Et c'est compliqué parce qu'on mélange vraiment beaucoup de styles. Il y a une bonne dose de rock. On n'est absolument pas dans la reproduction fidèle d'un blues traditionnel, mais on s'inspire fortement de cette vision-là du blues avec une guitare, plutôt des guitares slide, des guitares dans des encordages un petit peu plus particuliers, une énergie qui est vraiment un son qui est plus sale aussi et quelque chose qui est beaucoup plus brut de décoffrage, alors que quand on remonte un peu plus vers le nord, quand on va partir vers Chicago, là on va avoir un blues qui va se s'urbaniser, qui va devenir un peu plus précis, un peu plus classe au fur et à mesure qu'on va monter vers le nord.
D'ailleurs, je crois que vous êtes allé récemment sur les terres du Delta Blues.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus? Alors non pas sur tous les détails de ce voyage qui était quand même perso, mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur les terres de cette musique qu'on admire et qu'on a envie de jouer au plus grand nombre en proposant ses propres compos?
C'est impressionnant. En fait, sur le coup, on n'avait pas l'impression que c'était réel. On est arrivé un mardi soir à 23h. On est sorti et en fait, il y avait des groupes qui jouaient dans quasiment tous les bars, donc on était à la Nouvelle-Orléans au début. Et qu'est-ce que ça jouait, hein. Oh, ils étaient exceptionnels, hein.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le culte qu'il y a autour de la musique, qui n'existe pas en France, clairement, hein, même si on aime la musique, mais c'est vraiment à un autre niveau. Il y a un des endroits où on est allé, qui est Clarksdale, qui est la capitale du Delta Blues. C'est une région qui est très très pauvre. Ils ont que ça pour eux, le blues, c'est leur tour Eiffel pour nous, quoi. Donc il y a vraiment un véritable culte pour la musique en général, et dans ces endroits-là, pour cette musique en particulier. Et ça, bah, quand on arrive, nous, en tant que musiciens de blues, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 marquant. Moi, ça m'a retourné les tripes du début à la fin.
Ouais, justement, quand on fait un voyage comme celui-là, qui finalement est entre guillemets un pèlerinage, est-ce qu'on revient boosté ou est-ce qu'au contraire on revient en se sentant vraiment tout petit par rapport à, justement, tu dis, cette pratique de la musique, ce côté cultuel quasiment de la musique?
Les deux.
Ouais, un peu les deux, ouais, je suis d'accord.
Ça booste énormément parce que, effectivement, on rencontre plein de musiciens qui joue de fou, et puis ça semble naturel. On a vu des gens à Memphis, on a vu une sorte de petite cour où il y avait une scène. À un moment, le gars qui servait les boissons, il s'est levé, il a été chanté, il a mis la baffe à tout le monde, il est reparti servir ses boissons. Le gars qui faisait les entrées, il s'est levé, il a été chanté, il a mis sa baffe à tout le monde, il a été refaire les entrées. Enfin, il y a cet aspect-là. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui jouent complètement approximativement et on se dit, en fait, on pourrait jouer, ça dénoterait pas complètement. Donc il y a ces deux aspects-là, en fait, qui moi, m'a marqué aussi, de se dire, c'est une bonne baffe, mais en même temps, ça donne envie d'y aller pour de vrai, d'aller y faire nos propres concerts.
Ah, c'est ça, la prochaine fois qu'on y va, l'objectif, c'est de pouvoir y jouer. ce serait vraiment le top.
Et on croise évidemment les doigts pour que ça puisse se faire. Est-ce que ce voyage vous a inspiré? Parce que forcément, quand vous êtes parti, l'EP, il était déjà en cours de finalisation. Il n'y a pas de nouvelles choses qui sont rajoutées, mais peut-être qu'il y a des carnets de notes qui se sont remplis pour de prochaines choses.
Ouais, bah on a déjà écrit un morceau qui s'appelle Mississippi, donc forcément, comme tu viens de le dire, il n'est pas sur l'EP, vu que l'EP était déjà enregistré.
Le 20 juin est donc sorti Keep Looking Up, nouvel EP du duo blues valenciennois Secret Garden and the Dusty Man. Un EP que l'on peut bien évidemment se procurer en version numérique, mais aussi, et c'est à souligner, en version physique.
Oui, sur notre site aussi, il est en vente en ligne. Il sera en vente en ligne à partir du 20, mais on peut déjà le précommander en fait. On a un Bandcamp sur lequel on peut gérer toutes les commandes. On peut l'acheter en physique, on peut l'acheter en dématérialisé.
Et donc notre site, c'est sgdm.fr.
Et c'est là-dessus qu'on peut, à partir de là, qu'on peut commander le disque. Parce que le physique, c'est bien aussi. Hein. On ne sait jamais, hein, sur les plateformes, d'un jour ou l'autre. Ce qu'on a mis de côté, ça peut disparaître, hein, donc si un jour on oublie de payer notre abonnement pour être sur les plateformes, ben, hein, voilà, vous avez plus le disque, alors que bon, si vous l'avez en physique, ça vous l'avez pour de bon, surtout qu'on a quand même un bel objet, on a un super graphiste, hein, Arf One Design, qui travaille avec nous depuis les débuts, et puis on a Dominique Lemaguer qui nous a fait une superbe photo, et ça, on l'a en miniature sur son téléphone, mais quand on l'a en vrai, on l'a un peu plus grand.
Cette EP, 5 titres, nous parle de l'importance de se retrouver, des liens familiaux également, mais pas uniquement. Le titre de l'EP, comme l'une de ses chansons phares, nous parle de l'importance d'être résilient. On pourrait le traduire finalement par « Garde la tête haute », le titre de cette EP, parce que c'est vraiment ça le message que vous voulez porter à travers ce disque.
Ouais, c'est aussi « Garder le courage ». Il faut savoir que ce morceau-là, on l'a écrit à l'époque où c'était le Covid, donc le confinement, le deuxième ou le troisième confinement, où c'était vraiment la grosse galère pour nous. Et voilà, on a eu l'envie d'écrire ce morceau pour parler de ce qu'on vivait.
Partir sur l'idée aussi, quand on a écrit ce texte, qu'un jour ça irait mieux. Mmh. Donc c'était ça aussi, de se dire, ok d'accord, là en ce moment c'est dur. C'est vrai que les deuxième et troisième confinements, moralement, ont été très très durs à encaisser. Et de se dire, un jour on s'en sortira, un jour on se retrouvera, on arrivera à se retrouver tous ensemble. Et puis maintenant, en fait, c'est quelque chose qu'on continue à se dire un petit peu tous les jours, parce que garder le courage, on en a besoin. On a l'impression de sortir d'une catastrophe pour enchaîner sur une suivante, et de se dire, continuer à se dire, un jour ça ira mieux, un jour ça ira mieux. On sait pas quand, mais un jour ça ira mieux. En fait, c'est antinomique, mais on fait un blues feel good. Normalement, justement, le principe même, le nom du blues vient de l'expression avoir un coup de blues. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est ça. On est censé exprimer notre tristesse. Et on exprime notre tristesse aussi dans notre musique.
Mais sous forme d'espoir.
Voilà, toujours garder cette idée que. Toujours garder une porte vers quelque chose de positif dans nos textes. Quoi.
Ce nouvel EP a été enregistré en home studio. Sarah et Emric du groupe Secret Garden and the Dusty Man nous en disent plus sur les conditions d'enregistrement.
Alors on a tout fait nous-mêmes, on l'a enregistré à la maison puisque on a notre studio,
tout est. On a un peu de matériel.
Voilà, on a un peu de matériel à la maison. On s'est équipé au fur et à mesure. Donc on a fait un enregistrement. Au départ, on a fait
toutes les parties instrumentales.
Ouais, merci.
Donc on a fait d'abord toutes les parties instrumentales.
Non, on n'a pas enregistré façon live, on a vraiment fait séparément.
Enfin, plus ou moins séparément, on n'a pas fait complètement piste par piste. Vraiment complètement séparé, c'est ce qu'on avait fait pour le premier album.
Perdait un peu le groove en fait, en faisant ça.
Donc je voulais vraiment garder le groove qu'on avait d'un point de vue déjà percussion, parce que moi j'ai la grosse caisse et c'est Sarah qui a ce qu'on appelle la pulse, quoi, donc ce qui remplace la caisse claire, que ce soit avec le washboard, avec les tambourins. Donc il faut vraiment que d'un point de vue percussion on soit en place, et faire vivre ce groove en jouant séparé, c'est pas simple. Donc c'est un aspect
parce que
je voulais garder.
Ça voudrait dire qu'il faudrait enregistrer au clic, au métronome, et on perd le côté groove en faisant ça.
Et puis ensuite, on a enregistré tout ce qui était voix et solo dans un second temps. Ça a pris aussi du temps parce que moi, je me suis formé en même temps au mixage. D'abord avec le single, Le single, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à mixer et à masteriser. Et puis ensuite, j'ai développé mes compétences là-dessus pour pouvoir vraiment sortir le son que j'avais en tête, quoi. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Puis il y a toujours le souci, quand on fait quelque chose soi-même, de pas avoir de vrai deadline et de se dire, ah bah tiens, finalement il y a ce petit détail là qui me gêne, et donc revenir dessus et sans jamais vraiment sortir de cette spirale. Ça, c'est aussi, je pense qu'on aurait pu le sortir beaucoup plus rapidement si on s'était mis vraiment un vrai planning avec une vraie deadline. Mais au final, c'est un mal pour un bien, parce que le résultat me plaît vraiment. J'ai vraiment réussi à sortir un son, vraiment le son que j'avais dans la tête, quoi. Alors qu'à la base, quand on a attaqué le projet l'année dernière, j'étais quand même pas ultra au point sur ce que c'est qu'un mixage. Donc je suis quand même très content du résultat, quoi.
Alors justement, à quel moment on se dit c'est bon, parce que on peut toujours se dire c'est pas bon, il y a encore un truc à modifier, il y a encore un truc à corriger. À quel moment on se dit c'est bon?
Jamais.
Est-ce que c'est Sarah qui, à un moment donné, c'est bon, on y va, t'arrêtes, tu sors un peu de ton bureau?
Non, on se dit, moi je me dis pas c'est bon, pour moi c'est toujours pas bon.
Mais voilà, il y avait toujours quelque chose. À chaque fois qu'on le réécoutait, qu'on modifiait, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et c'est Emric qui, au bout d'un moment, a dit bon, allez, c'est tout là, on arrête de chercher la petite bête, parce qu'à force de trop vouloir le truc parfait, on va perdre le côté. Ça va être trop lisse, en fait, quoi, et c'est pas le but du tout de notre projet. Donc il a dit allez, c'est tout, on arrête. Là, on a déjà quelque chose de très bien. Ça sert à rien de chercher la perfection, donc ça ira, et puis voilà, et il a eu raison au final.
Ouais, parce qu'il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on écoute d'autres albums, c'est que dans les autres albums aussi, il y a des défauts, mais vu qu'on ne les connaît pas, on ne les entend pas. Donc il n'y a que ceux qui font l'album qui les entendent, ces défauts-là. Donc il y a un moment, c'est très compliqué, hein, de prendre ce recul par rapport à ce qu'on est en train de faire, et de se dire, oui, on est en train de se prendre la tête pour quelque chose que personne n'entendra, donc on va peut-être se calmer un petit peu, puis... Je me suis rendu compte en plus, avec le recul de l'album précédent, il y a plein de défauts que j'entendais avant et que maintenant je n'entends plus, que j'ai fini par oublier. Donc au bout d'un moment, on va peut-être arrêter de chercher vraiment la petite bête, de chercher la perfection. C'est surtout dû à un manque de confiance en soi. Donc à un moment, on va se lancer et puis on verra ce que ça donne.
C'est vrai que vu qu'on n'est que deux aussi, on n'a pas quelqu'un qui est extérieur au projet, qui nous a dit quoi faire, quoi changer, etc. Donc il y a aussi le fait qu'on n'avait pas de regard extérieur qui fait que c'était pas évident de se dire allez, ok, maintenant c'est bon.
Votre son, vous trouvez qu'il a évolué, que la patte des Secret Garden and the Dusty Man s'affine?
Alors s'affine, non, j'irais le contraire, moi, parce que justement elle se roots-ifie,
elle se cradifie
elle devient plus brute de décoffrage.
Alors quand je dis s'affine, c'est plutôt au sens vous voyez de plus en plus là où vous voulez aller.
Ouais,
ok,
c'est ça. Alors aussi parce que j'ai développé mon jeu de guitare. J'ai travaillé un jeu de guitare maintenant où j'ai plus besoin de rajouter des instrumentations derrière sur les enregistrements pour remplir l'espace. C'est toujours la même chose aussi, un premier album. Pareil, avec le recul, je me rends compte que si j'avais envie qu'on ait plein d'invités, c'était déjà pour faire profiter les copains, mais c'est aussi toujours la même chose, par un manque un peu de confiance en soi, on veut rajouter, enfin en tout cas moi j'avais envie de rajouter des trucs parce que j'avais pas super confiance en moi là-dessus, et là maintenant j'ai beaucoup plus confiance dans mon jeu de guitare pour pouvoir remplir le truc
remplir l'espace sonore,
exactement, et beaucoup plus confiance en moi sur le style, sur un truc beaucoup plus brut de décoffrage.
Parce qu'en rajoutant plein d'invités comme on avait pu le faire sur le premier album, ça donne un truc moins roots, et du coup c'est moins dans le projet.
Et c'est
pas quoi.
C'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose qui ressemble à ça en live aussi.
Keep Looking Up, c'est le nouvel EP de Secret Garden and the Dusty Man. Et pour aller écouter et soutenir ce groupe du Valencinois, direction les plateformes d'écoute et de téléchargement numérique ou le site internet sgdm.fr. Un sujet de Julien Maille de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est HK, le saltimbanque. Pour mordre la vie à pleines dents, j'utilise le dentifrice campuslille.com.
Expliquez-moi, Comment se fait-il que ce soit toujours les pauvres qui ramassent dans leur bide et dans leur face? Vous les voyez traîner en ville, ce n'est pas leur argent qu'ils gaspillent, mais de l'énergie à revendre pour un petit truc dans le ventre. Comment alors faut-il qu'ils soient, pour que tout de même vous les voyez? Faut-il qu'ils se tiennent bien droit, ou alors qu'en bourse ils soient cotés? Le moindre petit intérêt que vous ayez pour les aider, c'est votre côté assez blaireau, avec la déduction d'impôts.
Alors cette société de merde, rien que d'y penser j'en ai la gerbe, rien que d'y penser j'en ai la gerbe.
Ce fric qu'amassent vos élus vous met presque la trique, avec en prime un doigt dans le cul. Et de ce doigt-là, moi j'en veux plus, car si je regarde demain, ce n'est plus un doigt dans le cul, mais sans doute toute la main.
Alors cette société de merde, rien que d'y penser j'en ai la gerbe, rien que d'y penser j'en ai la gerbe.